Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit, dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. La race humaine a commencé avec un homme et sa contrepartie, ou littéralement avec un homme mâle et un homme femelle. Dieu a fait comprendre à ce premier homme que ce n'était pas bon d'être seul. Dieu a donc créé l'humanité comme mâle et femelle, et au premier couple, il a commandé, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Adam, qui a été créé de la poussière plus tard, a donné le nom d'Ève à la femme parce qu'elle serait la mère de tout le genre humain. Il y a souvent les naissances multiples, mais comme des flacons de neige, chaque personne est un individu unique du genre humain. Chaque personne nouvelle, le corps venant des parents et l'esprit venant de Dieu, doit être enseignée à se soumettre à la volonté de Dieu, parce que chaque personne a la tendance de se considérer comme le standard par lequel toute autre personne doit être jugée. Chaque être humain est donc le résultat d'un trio, homme, femme et Dieu. Les enfants humains dépendent de leurs parents plus longtemps que toute autre forme de vie reproduite. Il est à rappeler que les êtres humains fonctionnent fondamentalement par ce qu'ils apprennent intellectuellement. Tous les autres êtres fonctionnent selon leurs instincts, sauf bien sûr s'ils sont dressés par un humain. Les hommes sont ainsi plus que des mammifères. Ils sont tous les deux, corps et esprit. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est ce qu'on appelle aussi l'âme. Selon Jacques chapitre 4, le verset 5, Dieu désire jalousement l'esprit, c'est-à-dire l'homme intérieur, qu'il a fait habiter en nous, l'âme extérieure. Le dessein de Dieu donc pour l'homme, sa création la plus excellente, est que l'homme diffère complètement de tous les autres êtres créés. Dieu dit que l'homme doit assujettir la terre et dominer sur les animaux. Dans un sens réel, chaque personne est la moitié d'une paire potentielle. Ceci doit être compris par tout le monde, préférablement au plus jeune âge possible, afin de comprendre sa dépendance de l'autre sexe. Il est primordial donc que nous, les parents, nous fassions bien attention de développer le corps et l'esprit avec le mariage potentiel en vue. Pourquoi? D'abord afin que l'esprit de l'enfant devienne le maître de son corps. Ensuite, afin de développer une saine compréhension hétérosexuelle, c'est-à-dire afin qu'il comprenne bien ce que Dieu attend de lui comme un homme ou comme une femme, comme un époux ou comme une épouse, comme un parent. L'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 1 à 8, dit ceci au sujet de la conduite humaine. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous avons données de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. que personne n'en a fait, n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons dit, déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Une fois jeune adulte, une fois adulte, il est aux enfants d'agir selon ce que leurs parents leur ont appris. À nos jours, le jeune homme ou la jeune femme qui s'intéresse à une personne de l'autre sexe participe, plus ou moins, à ce qu'on appelle de faire la cour. Cependant, la pratique de faire la cour à quelqu'un date de très récemment historiquement. Jusqu'à 1250, à peu près après Jésus-Christ, les parents ont presque toujours choisi le partenaire de mariage pour les enfants. Il est très rare actuellement, au moins dans la société occidentale, que les parents font le choix pour l'enfant. Mais malheureusement, la pratique de faire la cour n'est pas très à la mode actuellement. Cependant, même aujourd'hui, nous, les parents, devons avoir au moins une partie dans le processus de choisir un partenaire dans le sens que nous devons influencer nos enfants avant qu'ils arrivent à l'âge du mariage. Surtout, nous devons les influencer spirituellement. Mais qu'est-ce que cela veut dire de faire la cour? On n'entend pas très souvent actuellement. On pense que c'est plutôt quelque chose d'avant la Révolution. Mais la pratique est toujours là, sous d'autres noms, et le processus a changé, mais qu'est-ce que c'est? Littéralement, le petit Robert définit le faire la cour comme un cercle de personnes empressées autour de l'autre en vue d'obtenir ses faveurs. Par exemple, une femme qui a une cour d'admirateurs. De faire la cour à quelqu'un, c'est de chercher à obtenir ses faveurs. Et on le fait en se montrant assidu, galant auprès d'elle pour lui plaire. Mais quand je parle de faire la cour, je veux dire quelque chose de plus profond que cela. Mais d'autres définitions souvent entendues sont de sortir ensemble, d'attirer quelqu'un vers soi, de faire l'amour, de poursuivre quelqu'un en vue du mariage. C'est peut-être dans ce dernier sens que je parle ce matin. Il est évident, je crois, que pas toutes ces définitions s'appliquent à la poursuite de quelqu'un en vue du mariage, surtout quand on parle de faire l'amour. De faire l'amour, comme on le comprend actuellement, c'est plutôt de l'exploitation de l'autre afin de satisfaire ses propres désirs. Et cette sorte d'amour, d'attraction, n'a rien à voir avec l'amour biblique qui cherche le bien-être de l'autre. Les enseignements bibliques en ce qui concerne nos relations les uns avec les autres s'appliquent aussi à cette pratique de faire la cour. Tout d'abord, il faut que nous-mêmes, nous soyons entièrement consacrés au Seigneur. Il faut nous sanctifier devant Dieu, car notre raison d'être est de glorifier Dieu. Je parle à la première personne parce que je suis passé par ce processus de faire la cour quand j'étais plus jeune, et dans un sens, je le fais toujours envers ma femme. Je pense toujours à comment nous pouvons améliorer notre relation. Nos actions doivent être gouvernées selon notre soumission à Dieu. Cela veut dire que nous acceptons et suivons l'avertissement donné par l'apôtre Paul au sujet de ceux que nous fréquentons. Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Il est parmi ceux que nous fréquentons que nous allons trouver notre partenaire pour la vie. Donc il faut faire très attention. Notre conduite lorsque nous faisons la cour à quelqu'un doit être en vue de notre sanctification aussi bien que la sanctification de celui ou de celle que nous estimons. Lorsque nous prenons une femme ou un mari, il faut que nous le fassions avec sainteté et honneur. Et non pas avec la passion des babards. Dans une précédente étude, j'ai essayé de démontrer que mariage qui se base seulement sur l'amour physique ou l'éros, n'est pas en terre ferme. Avec sainteté et honneur veut dire que nous devons développer l'amour agapé avant d'entrer dans une relation aussi ferme que le mariage. Bien sûr, l'amour agapé s'exerce avant le mariage envers celui seul qu'on fait la cour. C'est-à-dire, on veut son bien-être, on veut le mieux pour cette personne. Bref, lorsqu'on fait la cour, cela ne doit pas corrompre. C'est une période de découverte, oui, mais il ne faut pas tout découvrir. Le mariage doit être honoré et il faut que l'on réserve quelque chose, c'est-à-dire les relations les plus intimes, pour le mariage. Hébreux chapitre 13, le verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Il ne faut jamais oublier les avertissements des Écritures comme Galates chapitre 6, les versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dieu nous gouverne depuis notre naissance et cela ne doit pas s'arrêter lorsqu'on fait la cour à quelqu'un. C'est un moment où on ne connaît pas ses limites et il faut faire très attention à ne pas les dépasser. C'est un moment où la discipline de soi est primordiale. L'estime de soi et le respect pour l'autre personne dépendent de la discipline de soi. La volonté de Dieu doit être toujours plus importante que nos propres passions. Rappelons-nous de ce que dit le Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme, qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. De profiter de l'autre personne sexuellement ou n'importe comment, avant le mariage et bien sûr pendant le mariage, risque de détruire ou d'empêcher au moins le plein bonheur que l'on peut avoir pendant le mariage. Lorsqu'un homme et une femme cherchent un partenaire, il ne faut pas qu'il considère l'autre comme un objet à lui servir, mais comme son vis-à-vis. Mais la question se pose, à qui est-ce qu'il faut faire la cour? D'abord, qui sont les candidats pour le mariage selon la Bible? Bon, il y a des gens célibataires, c'est-à-dire de faire la cour à quelqu'un marié serait l'adultère, la débauche, que l'on a des relations sexuelles ou non. Il y a des veufs ou des veuves, mais si on est veuf ou veuve, on peut se remarier seulement dans le Seigneur. Il y a les divorcés dont le partenaire avait commis l'adultère. Et peut-être il y a le cas où le partenaire non-croyant est parti, mais il faut bien étudier ce passage pour vous-même avant de faire une décision. Mais ensuite, qui sont les partenaires potentiels dans ces quatre catégories que je viens de mentionner? Bon, il y a d'abord ceux que nous connaissons directement ou indirectement. Il n'est pas du tout sage de sortir avec quelqu'un que l'on ne connaît pas du tout. En Amérique, on dit de sortir à l'aveugle. Ou en France, il y a ce qu'on appelle de draguer des filles. Mais il faut connaître au moins quelque chose au sujet de la personne et il faut se demander si on peut avoir confiance dans la personne qui a arrangé que l'on sorte ensemble. Si on peut avoir confiance dans la personne qui arrange, peut-être ça va, mais encore, il vaut mieux de connaître la personne un peu. Personnellement, je crois, et je crois bibliquement, que seulement ceux qui sont chrétiens doivent être considérés sérieusement pour faire la cour, c'est-à-dire comme des candidats potentiels du mariage. Mes parents et les parents à Julie ont insisté même que nous sortions seulement avec des chrétiens pour une soirée avec quelqu'un. En France, il y a le problème de ne pas assez de jeunes chrétiens avec lesquels on peut sortir. La situation est plus grave alors parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Il faut dire qu'il y a beaucoup de dangers en sortant avec, ou en faisant la cour aux non-chrétiens. Environ 50% de jeunes chrétiens quittent l'église et abandonnent Dieu parce qu'ils se sont mariés avec des non-chrétiens, ceux auxquels ils avaient fait la cour sans considérer les dangers et l'avenir. Celui ou celle qui fait la cour à un non-chrétien devrait immédiatement faire comprendre à l'autre qu'il ou qu'elle est chrétien et qu'il ou qu'elle est entièrement consacré au Christ. Mais cela n'efface pas des problèmes potentiels qui peuvent se produire, s'ils se marient. Il y a le problème des enfants et le problème de sa propre liberté de servir le Christ, les problèmes que nous avons vus dans une étude précédente. Si le partenaire potentiel n'est pas chrétien, je crois que c'est une bonne règle que quelqu'un d'autre étudie avec lui ou elle pour le convertir s'il est d'accord. Il y aura moins de chances que la personne soit convertie à cause de l'influence de celui ou de celle qui l'aime que par sa propre conviction de servir le Christ. Si le jeune chrétien veut étudier la Bible avec son ami, il vaut mieux que notre chrétien soit présent encore afin que les émotions n'influencent pas les décisions. Parce que je connais des cas où, disons, la jeune fille est chrétienne, elle veut que son mari soit chrétien, donc elle étudie avec lui et lui il est converti. Mais plus tard, il n'est plus fidèle à l'église. Une fois marié, c'est que lui, il s'est converti à cause d'elle, mais pas à cause de ses propres convictions de servir le Christ. Il est presque certain qu'aujourd'hui qu'on va se marier avec quelqu'un que l'on connaît plus ou moins. C'est-à-dire on n'arrange plus les mariages pour ses enfants. Il est important que l'on arrive à les bien comprendre avant le mariage, autant que possible. Et puisque selon les Écritures, une veuve chrétienne ou un veuf chrétien ne peut pas se remarier sauf dans le Seigneur, c'est-à-dire sauf avec un autre chrétien, il est un bon principe pour les célibataires aussi de ne se marier que de se remarier ou de se marier que dans le Seigneur. Pas seulement faut-il considérer si la personne est chrétienne ou non, mais il faut considérer aussi son environnement, son caractère et sa personnalité. Et peut-être ces choses sont aussi importantes que si la personne est chrétienne ou non. Quelle est son humeur? Changeante, capricieuse ou digne de confiance? Nerveuse ou calme? Égoïste ou humble? Extroverti ou introverti? Quel est son caractère? Honnête, intègre, industrieux, diligent, spirituel? Les défauts de caractère sont dangereux, mais il faut dire que la différence de personnalité est une affaire de goût ou de préférence. Mais si sa personnalité vous gêne avant d'être marié, elle ne va pas beaucoup changer après que vous êtes marié. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, je n'aime pas ceci ou je n'aime pas cela dans mon ami, mais ça va tout changer après que nous sommes mariés, mais ils ont tort. C'est faux. On ne change pas beaucoup. On ne peut pas baser sa vie sur cet espoir-là. Ce sont donc des choses auxquelles il faut penser, je crois. Il faut se rappeler pourtant que même quand on fait de mauvais choix, la situation peut améliorer. La parole de Dieu a des remèdes même pour les problèmes conjugaux. Mais encore, il ne faut pas baser son espoir sur cela. Il vaut mieux arranger ces choses avant le mariage, afin d'être heureux après le mariage. Mais y a-t-il des règles pour faire la cour? Il est naturel que l'on veut être accepté ou aimé par quelqu'un d'autre quand on devient adulte. Il faut exercer la caution dans le choix de l'autre personne parce que le mariage et pour la vie, c'est à jamais. La promiscuité n'est pas permise par Dieu et elle est certainement nuisible au bon rapport avant et après le mariage. Il est ironique, mais on ne peut pas bien connaître quelqu'un, ou au moins il y a de grands empêchements, si on se permet de prendre possession du corps de l'un et l'autre avant le mariage. On passe tout son temps à faire l'amour au lieu de communiquer. La continence ou la chasteté doit être exercée par tous les célibataires avant le mariage et par tous les mariés pendant le mariage. La continence ou la chasteté aide à développer le respect ou l'estime pour l'autre et augmente sa propre estime de soi. Cela dit, l'amour passionné a sa place. Mais il faut se rappeler de l'avertissement de Salomon. Il a dit trois fois dans le Cantique des Cantiques, « Je vous en conjure, filles, par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. » Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire « Attends, afin que l'amour physique fasse plaisir et ne détruise pas. » Tous les corps masculins sont les mêmes et tous les corps féminins sont les mêmes d'un point de vue anatomique. Si on veut bien connaître son propre corps ou le corps de l'autre sexe avant le mariage, il y a des livres médicaux qui expliquent tout sans éveiller les désirs sexuels. De connaître personnellement le corps de l'autre est réservé au mariage. Si on veut se connaître dans d'autres domaines, il faut de la communication. Afin de bien communiquer, il faut passer du temps ensemble. Et afin de se bien comprendre, il faut beaucoup discuter, voir l'autre personne dans des situations différentes pour voir comment il ou elle agit ou réagit. L'avantage de la période où on fait la cour, c'est que l'on peut bien choisir quelqu'un avec lequel on a beaucoup en commun. Aussi, ce n'est pas un engagement à vie, donc il y a toujours l'occasion ou le temps de dire non à l'engagement du mariage. L'idée que les pôles contraires attirent est vraie dans la science, mais cela ne marche pas très bien dans la vie entre des personnes, surtout dans le mariage. Ce qui intéresse une personne ne doit pas toujours intéresser l'autre, mais il ne faut pas avoir trop de conflits non plus. D'être capable d'accepter ou de faire des accords avant le mariage est un bon signe du progrès dans sa maturité et il est bon signe pour les relations conjugales plus tard. La période où on fait la cour doit se terminer en amour ou se terminer. Il est difficile de définir toutes les sortes d'amour qui sont possibles, mais s'il n'y a pas d'attraction physique, les autres formes d'amour ne seront pas suffisantes pour faire un mariage. Ou de l'autre côté, s'il n'y a que l'attraction physique, ou disons le désir d'avoir des enfants, il n'y aura pas de raison suffisante pour le mariage. Il y a, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu l'expression « tomber amoureux de quelqu'un », de recevoir un coup de foudre, on tombe amoureux et on veut se marier, on est attiré vers la personne mais on ne connaît pas du tout. Ou je ne sais pas combien de fois j'ai entendu des gens disent oh, « moi je voudrais bien avoir des enfants, je cherche donc un mari ou une femme pour avoir des enfants ». Mais encore, ce n'est pas en vue de connaître la personne et d'avoir des bons rapports dans tous les domaines avec l'autre personne. Et un mariage qui se base sur ces raisons-là n'a pas assez de raisons pour avoir place, pour avoir lieu. Bon, il est normal que deux personnes qui s'aiment désirent l'un et l'autre physiquement, mais il faut dominer ces désirs jusqu'au mariage. Et je dois dire qu'ils ont fait des sondages que parmi les gens qui ont gardé leur corps pour le mariage, ils trouvent qu'ils ont eu plus de plaisir dans les rapports après, quand ils se sont mariés. Afin de maintenir la fidélité pendant le mariage, il est primordial que toutes les deux personnes, pendant la période où elles font la cour, apprennent à être fidèles, pas seulement sexuellement, mais dans le domaine de la loyauté. Il a été constaté aussi dans plusieurs études que celui ou celle qui se donnait au sexe avant le mariage avait moins de scrupules de faire le même avec d'autres personnes après le mariage, c'est-à-dire il y avait plus de cas d'infidélité ou d'adultère. De faire l'expérience sexuellement avant le mariage pour voir si on sera compatible avec l'autre dans ce qu'on appelle l'union libre ou le concubinage n'est pas plus efficace que celui qui essaie un parachute en sautant d'un toit d'une maison à un étage. Le parachute n'a pas le temps d'ouvrir. Comme j'ai dit, des relations adultères par un ou les deux époux sont souvent le résultat des rapports illicites entre ces deux personnes et peut-être avec d'autres personnes avant le mariage. Le vrai amour est patient et plein de bonté. Il ne fait rien de malhonnête ou honteux. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne fait pas ce qui est du péché, mais il veut faire ce qui est juste. On trouve toutes ces qualités de l'amour agapé en 1 Corinthiens chapitre 13 que nous avons déjà étudié. Que nous apprenons tous ces qualités de l'amour agapé. Amen.